Je suis contente d'être avec vous. Toujours un privilège d'ouvrir la parole de Dieu, qu'on puisse vraiment regarder à ce que Dieu veut nous dire aujourd'hui ensemble. Mais avant, j'ai quelques petites questions pour vous. À main levée, qui dans cette salle est atteint d'acrophobie? Oh, qu'est-ce que c'est? Et si je vous dis plutôt qui a peur des hauteurs, qui a le vertige, levez la main. Pas tant que ça, je m'attendais à plus. Qui est atteint d'arachnophobie? Peut-être arachno, hein? Les araignées. Qui a peur des araignées? Levez la main. Un peu plus. Aérodrophobie. Prendre l'avion. Qui a peur de prendre l'avion? Peut-être une personne. Non, OK. Catagélophobie. La peur du ridicule. Ah, les êtres humains, des fois, hein, quand même, un petit peu. La néophobie, ça, je pense que tout le monde devrait lever la main à certains degrés. La peur de la nouveauté, la peur de l'inconnu. Quand même, on est inconfortable un peu avec ça. La gérontophobie, et toutes les personnes de 60 ans et plus disent « Amen », c'est la peur de la vieillesse. La peur de la vieillesse. Et j'ai regardé aussi ça, c'est tous des termes, et ceux que je vais vous dire juste après, c'est tous des termes vraiment officiels que j'ai trouvés sur l'Office de la langue française, mais il y en a d'autres que j'ai trouvés bien drôles, donc je voulais vous les partager. La triskaïdécaphobie, la peur des chiffres 13, OK? Wouh! Ça va loin! La kionophobie, la peur de la neige, ça va vraiment mal si tu es Québécois, désolée pour toi. La téléphonophobie, et tous les introvertis disent « Amen », la peur du téléphone. La taphophobie, la peur, là, ça, faut aller un peu loin. Pour avoir peur de ça, il faut que tu aies réfléchi à des choses pas très agréables dans ta vie. La peur d'être enterré vivant, c'est une phobie officielle. La ptéronophobie, la peur des plumes, come on. OK. L'amatophobie, la peur de la poussière. L'ouranophobie, la peur du ciel. Imaginez, ça va vraiment pas bien, ton affaire. Qu'est-ce que tu restes chez toi, dans le fond? Et la pire, la phobophobie, la peur de la peur. Hey, quand on se compare, on se console, OK? Vous êtes pas si pire. On n'a pas trop de phobie, trop bizarre à comparer tout ça. Une phobie, c'est une peur qui est démesurée, hein, qui dépend d'un sentiment plutôt que quelque chose de rationnel. Comme vous avez pu le remarquer, là, les plumes. Moi, je suis à l'aise, j'ai pas de problème avec ça. Et la peur, ça fait partie des 6 émotions primaires universelles. Il y a la peur, la colère, la joie, la surprise, la tristesse, le dégoût. C'est des émotions que chaque être humain, en fait, vive, indépendamment des cultures. Et c'est donc normal, vraiment, à 100% de vivre la peur, c'est humain, et surtout aussi dans le monde dans lequel on vit, hein, il y a de plus en plus de facteurs de crainte, de facteurs d'anxiété aussi, par le fait qu'on soit hyper connecté, on a tellement accès à d'informations qui sont extrêmement négatives, par des mauvaises nouvelles, par nos charges de travail, les machines étaient censées nous libérer de tellement de choses, mais c'est rendu nous les esclaves quasiment de notre connexion et de nos machines. Quand on voit les guerres, les tragédies, la peur et l'anxiété, ça augmente de plus en plus en Occident. Vraiment, on le sait, on le ressent. Mais à travers tout ça, nous lisons dans la Bible, je ne sais pas si vous aviez déjà entendu ça, mais on lit dans la Bible 365 fois l'expression « n'aie pas peur » ou « ne crains pas ». Imaginez, Dieu à tous les jours nous rappelle « n'aie pas peur ». À travers tout ça, tout ce qu'on peut vivre, tous les genres de craintes qu'on peut vivre à l'intérieur de nous, n'aie pas peur. Et c'est le titre de mon message qu'on va voir apparaître quand ils vont avoir réglé le problème. Ne vous inquiétez pas, on reste concentré avec moi. C'est pas grave, on n'en a pas besoin vraiment, OK? Le passage que je voulais vous partager aujourd'hui se trouve dans le livre du prophète Isaïe. C'est un passage magnifique, vraiment, qui montre à quel point Dieu, il nous aime et qu'il est présent aussi pour nous à chaque instant et qu'il n'y a donc aucune raison d'avoir peur parce qu'il est à nos côtés. Donc, avant de plonger dans notre message, dans notre passage, on va juste prier ensemble, donc qu'on puisse courber notre tête. Seigneur Jésus, je te prie de mettre ta main sur la technique qui fait que ça fonctionne, Seigneur, et qu'on puisse vraiment se concentrer pleinement sur toi, Jésus. Jésus. On ouvre ta parole, Seigneur, je te prie pour que tu parles à nos cœurs, à nos esprits, d'une façon ou d'une autre, Seigneur, tu le fais de façon tellement surprenante à chaque semaine. Je te prie pour que chacun d'entre nous, on puisse ressentir ton amour, Seigneur, ton amour véritable, on puisse être convaincu et ressortir d'ici vraiment rafraîchi, vivifié par ta vie, ton amour et ta grâce. C'est dans ton nom, Jésus, qu'on a prié. Amen. Alors, est-ce que c'est bon? Parfait. Merci. Merci. On applaudit les techniciens, techniciennes et la prière à la puissance. Alors, juste pour vous mettre un petit peu en contexte, donc, le passage qu'on va lire, c'est quand Israël, c'est dans l'Ancien Testament, c'est quand Israël est exilé à Babylone. C'est pas... Je le dis rapidement, là, si vous n'êtes pas vraiment à l'aise avec l'Ancien Testament, là, c'est pas plus grave que ça. Dans le fond, après, on va vraiment étudier le texte ensemble. Donc, mais pour ceux qui connaissent un peu mieux, là, pour vous situer, Israël est exilé à Babylone, loin de la terre promise par Dieu. Et là, après plusieurs années en exil, Dieu apporte un message d'espérance, en fait. Quand on regarde à partir du chapitre 40 jusqu'à 55, là, on voit que ce n'est plus le jugement qui est annoncé, mais c'est vraiment des paroles d'espérance que Dieu annonce, une délivrance à venir, oui, un retour sur la terre promise, etc., etc. Et le monde, en fait, peut, quand je lisais ça, je me disais que des fois, j'ai l'impression, et peut-être que vous le vivez aussi, on a l'impression, en tant que chrétien, peut-être de se sentir exilé, hein? En exil, loin de notre cité céleste, loin des principes du royaume de Dieu, comme les Juifs à l'époque qui étaient en exil, ils étaient aussi mis face à un contexte qui était anti-Dieu, en fait, qui était idolâtre et tout. Parfois, on peut avoir cette impression hein, d'être dans un monde, en fait, qui, clairement, qui ne connaît pas Dieu, qui ne veut pas de Dieu, et on se sent loin de notre patrie, du royaume de Dieu, en fait. Mais dans ce contexte d'exil, Dieu dit « N'aie pas peur, je suis souverain de ce monde. Dieu est en contrôle. Malgré tout ce que j'ai nommé tantôt, Dieu est en contrôle. On n'a rien à craindre. N'aie pas peur. » Et c'est ce qu'on voit, entre autres, dans notre passage. Donc, lisons ensemble Isaïe 43, versets 1 à 7. Vous êtes prêts? Allons-y. « Maintenant, voici ce que dit l'Éternel, celui qui t'a créé, Jacob, celui qui t'a façonné, Israël. N'aie pas peur, car je t'ai racheté. Je t'ai appelé par ton nom, tu m'appartiens. Si tu traverses de l'eau, je serai moi-même avec toi. Si tu traverses les fleuves, ils ne te submergeront pas. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas et la flamme ne te fera pas de mal. En effet, je suis l'Éternel, ton Dieu, le Saint d'Israël, ton Sauveur. J'ai donné l'Égypte en rançon pour toi, l'Éthiopie et Saba à ta place. Parce que tu as de la valeur à mes yeux, parce que tu as de l'importance et que je t'aime. Je donne des hommes à ta place, des peuples en échange de ta vie. N'aie pas peur, car je suis moi-même avec toi. Je ramènerai ta descendance de l'Est et je te rassemblerai de l'Ouest. Je dirai au Nord, donne, et au Sud, ne retiens personne. Ramène mes fils des pays lointains et mes filles de l'extrémité de la terre, tous ceux qui portent mon nom que j'ai créé pour ma gloire, que j'ai façonné, que j'ai fait. Amen. Wow, quel beau passage rempli de tendresse, de grâce, d'amour. Et il y a un principe, avant d'aller plus loin, il y a un principe pour l'étude biblique qu'on ne peut pas nécessairement s'approprier tout tel quel quand on lit la Bible. Particulièrement l'Ancien Testament, on pourrait dire, c'est pas parce que tu lis que Jonas a passé 3 jours dans le ventre d'un poisson que tu vas te retrouver dans une baleine du Saguenay, OK? C'est pas comme une prophétie pour toi. Nécessairement, je te rassure ce matin, si c'était une de tes peurs, de tes phobies bizarres. Mais voici pourquoi on peut quand même s'approprier, nous aussi aujourd'hui, les paroles que Dieu avait prononcées à Israël par la bouche du prophète Isaïe. Oui, le message, premièrement, clairement, il a été adressé à Israël, bien entendu, à son époque, à ses premiers destinataires, mais la parole de Dieu, il ne faut pas l'oublier, elle est vivante. Elle est vivante, l'Esprit de Dieu est agissant, et aussi la parole de Dieu, elle est prophétique. En lisant le livre d'Isaïe dans son ensemble, on lit des prophéties qui parlent d'un Messie à venir. On le voit des indices partout à travers. Vous irez lire vraiment Isaïe 40 à 55, c'est magnifique. Et c'est extrêmement prophétique sur Jésus qui va venir établir un royaume pour tout le monde, pas seulement pour les Juifs. Et donc, Isaïe parle d'un Messie, de Jésus, d'un royaume universel, etc. Et il faut savoir aussi qu'Israël... préfigurait aussi le peuple de Dieu à venir, c'est-à-dire que l'Église est appelée le corps de Christ et elle est le nouvel Israël en ce sens-là. Le Nouveau Testament nous dit que ce que nous lisions en fait dans l'Ancien Testament n'était que l'ombre des choses à venir. Voici pourquoi on peut s'approprier pour l'Église et même personnellement aussi ces magnifiques promesses et ces magnifiques vérités qu'on a vues tout au long de ce passage. Donc, je voulais juste faire cette petite parenthèse-là. Mais allons voir donc plus en profondeur ce que le texte nous dit. Donc, la première chose que je veux voir avec vous, c'est « N'aie pas peur ». Première raison de ne pas avoir peur. « N'aie pas peur, car je t'ai racheté. » « N'aie pas peur, car je t'ai racheté. » C'est ce qu'on lit au verset 1. Et au verset 3-4, on lit « En effet, je suis l'Éternel, ton Dieu, le Saint d'Israël, ton Sauveur. J'ai donné l'Égypte en rançon pour toi, l'Éthiopie et Saba à ta place. » Parce que tu as de la valeur à mes yeux, parce que tu as de l'importance et que je t'aime, je donne des hommes à ta place, des peuples, en échange de ta vie. Et nous, aujourd'hui, nous savons que Dieu est allé jusqu'à donner son propre fils pour racheter chacun d'entre nous. Le mot ici, dans le fond, le rachat, le fait d'être racheté, c'est par rapport à la rédemption, en fait. Le mot « rédemption », ça signifie « rachat ». C'est un terme qui était employé essentiellement pour parler d'un rachat d'esclaves, en fait. Quand quelqu'un payait le prix pour libérer un esclave, et c'est ce que Dieu a fait avec Israël quand le peuple était en esclavage en Égypte, il a racheté Israël. Et il rachète aussi son Église par la mort de Jésus à la croix. Jésus a payé le prix à notre place de notre péché alors que nous étions, nous, esclaves du péché, en fait. C'est pour ça l'idée de l'esclavage, c'est que nous étions esclaves du péché. Dieu a acheté notre liberté de sorte que nous ne sommes plus esclaves du péché ou de la loi de l'Ancien Testament. Ce passage magnifique nous dit dans Romains 3, 23-25, « Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu, mais ils sont gratuitement déclarés justes par sa grâce, par le moyen de la libération qui se trouve en Jésus-Christ. C'est lui que Dieu a destiné à être, par son sang, une victime expiatoire pour ceux qui croiraient. Jésus a pris notre place, il était cette victime à notre place. » Pour nous racheter. Il a vécu la condamnation à mort à notre place pour qu'on soit racheté, qu'on soit libre, en fait, du péché et qu'on ait la vie éternelle. C'est ça l'espérance du croyant. Et certaines personnes, j'entends parfois ça, et c'est normal, parce qu'on est des êtres sensibles, on est des êtres qui veulent ressentir les choses, mais des fois, justement, certaines personnes vont fixer leur attention sur le fait de vouloir ressentir l'amour de Dieu pour croire vraiment qu'ils sont aimés. Mais est-ce qu'on peut s'imaginer une plus grande preuve d'amour qu'un père qui donne son fils, en fait, pour nous? De quelle plus grande preuve d'amour avons-nous besoin? Il s'agit seulement de le croire par la foi. Et il y a d'autres aussi qui vont douter peut-être de l'amour de Dieu parce qu'ils n'ont pas, peut-être qu'ils n'ont aucune estime d'eux-mêmes. Ils ont été brisés par le passé, trahis, détruits par des mauvaises relations. Mais je veux vraiment qu'on regarde aujourd'hui la tendresse que Dieu avait envers Israël, comme on voit dans ce passage-là, c'est incroyable. Okay, Israël, c'était un peuple complètement pas rapport, faible, qui avait rien de particulier pour être aimé. Même, il était désobéissant, il était tête de mule. En gros, comme chacun un peu d'entre nous, hein, à certains égards. Mais au verset 4, Dieu dit, mais tu as de la valeur à mes yeux parce que tu as de l'importance et que je t'aime. C'est une vérité. Je prie pour que tu acceptes cette vérité par la foi ce matin, que tu en sois convaincu par l'Esprit de Dieu ce matin, toi qui as de la difficulté peut-être à recevoir l'amour de Dieu. Et j'ai été vraiment touchée hier par l'amour de Dieu d'une façon spéciale. Et vraiment, je ne peux pas rentrer dans les détails aujourd'hui, ce matin, mais vraiment, je voulais vous lire ce passage-là qui m'a percutée moi-même, comme si j'avais moi-même jamais compris vraiment la grâce et l'amour de Dieu. Romains 5, 6 à 8. Dieu, il n'est pas à l'écran en passant le passage. Dieu n'aime pas la meilleure version de toi-même. Hein? On veut tellement, on veut devenir la meilleure version de soi-même, et c'est vrai, c'est une conséquence du salut, mais mais en fait, il t'aime déjà comme tu es. Il n'a pas sauvé la meilleure version de toi-même, il t'a sauvé quand tu étais pécheur. Romains 5, verset 6 nous dit ceci. En effet, alors que nous étions encore sans force, est-ce qu'il y en a qui se sentent sans force parfois? Est-ce que je suis la seule dans la vie? Non? OK. Alors que nous étions encore sans force, Christ est mort pour des pécheurs au moment fixé. À peine mourrait-on pour un juste, peut-être accepterait-on de mourir pour quelqu'un de bien. Mais voici comment Dieu prouve son amour, c'est ça la plus grande preuve d'amour, envers nous. Alors que nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Puisque nous sommes maintenant considérés comme justes grâce à son sang, nous serons à bien plus forte raison sauvés par lui de la colère de Dieu. En effet, si nous avons été réconciliés avec Dieu grâce à la mort de son Fils, lorsque nous étions ses ennemis, nous serons à bien plus forte raison sauvés par sa vie maintenant que nous sommes réconciliés. Dieu veut nous réconcilier, Dieu veut nous réconcilier. C'est pour ça qu'il est mort à la croix pour nous sauver, alors que nous étions encore pécheurs. Et il referait la même chose encore aujourd'hui. Dieu me disait ce matin, « Dis-leur que je les aime. » Dieu vous aime, Dieu nous aime, chacun d'entre nous, profondément. On ne peut même pas imaginer à quel point il nous aime, mais on en a une preuve incroyable avec son Fils à la croix. On voit également de la même façon que Dieu protégeait Israël comme la prunelle de ses yeux, si aujourd'hui nous sommes en Jésus, rien ne peut nous atteindre. C'est ce qu'on lit dans le reste du passage. Si tu traverses de l'eau, je serai moi-même avec toi. Si tu traverses les fleuves, ils ne te submergeront pas. Si tu traverses les fleuves, okay, ça va peut-être arriver l'épreuve, mais les flots ne te submergeront pas. Si tu marches dans le feu, tu vas peut-être marcher dans le feu, mais la flamme ne te brûlera pas. La flamme ne te fera pas de mal. Romains 8, 35-39 nous dit ceci. Quel passage incroyable! Qui nous séparera de l'amour de Christ? Serait-ce la détresse, l'angoisse, la persécution, la faim, le dénuement, le danger ou l'épée? De fait, il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort à longueur de journée, qu'on nous considère comme des brebis destinées à la boucherie. Oui, il y a des persécutions et des difficultés pour chacun d'entre nous. Mais au contraire, dans tout cela, nous sommes plus que vainqueurs grâce à celui qui nous a aimés. Voyez-vous comment l'amour est au centre de tout ce que Dieu fait pour nous. En effet, j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni qu'aucune autre créature ne pourra nous séparer de quoi? De l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Est-ce qu'on peut applaudir l'amour de Dieu ce matin? Amen! Lorsque tu te sens submergé par la peur, par l'anxiété, la peur du lendemain, la peur pour un enfant, la peur des catastrophes naturelles, la peur de ne pas y arriver, la peur de ne pas être à la hauteur, la peur de perdre quelque chose, la peur de faire des erreurs, n'importe quelle peur, on a vu qu'il y en avait une tonne, hein, des peurs à avoir. La stratégie que tu dois employer, c'est de te rappeler ces versets, de comprendre que rien ne peut t'atteindre en fait. Ça s'appelle se laisser transformer par le renouvellement de l'intelligence. Dans Romains 12, on lit ceci. Par l'action de l'esprit, lorsque tu te sens accablé par la peur, laisse-toi renouveler par laisse-toi transformer par le renouvellement de l'intelligence. Et plus concrètement, en fait, la stratégie consiste à une des stratégies qu'on peut faire, et même en psychologie, ils font ça aussi, là, mais nous, on a un outil pas mal plus puissant avec tout ça, c'est de relativiser, en fait, notre peur. On peut relativiser notre peur. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tu dois relativiser ta peur par rapport au pire qui pourrait arriver. OK? On va faire un peu le processus ensemble. Si tu as peur peut-être de manquer d'argent, dans notre contexte actuel, peut-être le pire qui pourrait se passer, c'est d'aller demander de l'aide parce qu'on a vraiment des ressources, on a des outils, on a chacun d'entre nous aussi. Si tu as peur de manquer de temps, ouf! Qui a peur de manquer de temps dans ce monde frénétique? La pire des choses, peut-être, qui pourrait arriver, c'est que tu n'as pas le temps de faire certaines choses. OK? C'est juste ça. Si tu as peur, peut-être, de t'affirmer devant quelqu'un, tu as peur, de t'affirmer devant les gens, c'est une peur légitime. Le pire, peut-être, dans ce contexte-là, qui pourrait arriver, c'est peut-être un moment de malaise, éventuellement. quand on y pense, hein? C'est fou comme on est assailli par la peur. Pour des fois, ça devient irrationnel, c'est ça, irrationnel. Si tu as peur peut-être de demander, hein? Des fois, certaines personnes n'osent pas demander, mais la pire chose qui pourrait arriver, c'est que la personne te dise non. Si tu as peur peut-être d'un tremblement de terre, d'une inondation, c'est arrivé à Baie-Saint-Paul même. Qu'est-ce qui pourrait arriver? Bien, peut-être le pire des choses, ce serait de perdre ta maison, on pourrait dire, ou des biens. Et c'est quoi la pire des pires choses qui peut arriver à un être humain? C'est quoi? La mort. La mort, c'est la pire chose qui peut arriver à un être humain. Mais ce qui est incroyable comme chrétien, c'est que même la mort n'a pas de pouvoir sur nous. Imaginez, Jésus, il a vaincu la mort. Nous ne craignons même pas la mort, même la pire chose qui pourrait arriver, nous ne la craignons pas parce que nous savons que nous avons la vie éternelle en lui. Rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. Alors, nous n'avons peur de rien. Amen. Il faut vraiment se rappeler ces vérités-là. Relativisons le pire qui puisse arriver avec la perspective de l'éternité et la victoire de Jésus sur la mort. Vous êtes toujours là? Oui. Deuxième chose, donc une deuxième raison de ne pas avoir peur, n'aie pas peur car je suis avec toi. C'est ce qu'on lit au verset 5 et au verset 2 aussi. Si tu traverses de l'eau, je serai moi-même avec toi. N'aie pas peur car je suis avec toi et si tu traverses de l'eau, je serai moi-même avec toi. Ça veut dire que non seulement rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu, comme on vient de le voir, rien ne peut nous atteindre en quelque sorte, ça ne veut pas dire qu'on ne va pas passer à travers des épreuves, comme vous le savez, chacun d'entre nous, on le sait. Mais en plus, Dieu nous fait la promesse qu'il va être avec nous en tout temps par son esprit. Il va être avec nous. Quand j'étais au primaire, j'avais peur, je pense que j'ai déjà raconté cette histoire-là, mais je la raconte encore. Je marchais pour me rendre jusqu'à l'école, c'était quand même loin. J'habitais à Chambly dans ce temps-là et j'avais peur des grandes sixièmes années, OK? Je vous l'avoue. Donc, les grands, pour moi, c'était des personnes, des adultes de 35 ans là, qui avaient de la moustache puis une voiture, mais non, c'était juste des enfants, des petits-enfants de sixième année. Pour moi, qui était en première année, c'était impressionnant. Et je l'ai dit à mes parents, ça me faisait peur de marcher en fait parce qu'il y avait des grandes sixième années qui étaient là, puis ils me faisaient peur. Fait que je voulais être rassurée. Alors qu'est-ce que mon père a fait pendant quelques jours? Il est venu avec moi, donc il marchait avec moi pour qu'on se rende à l'école. Et pensez-vous qu'avec mon père à côté, j'avais peur des grands de sixième année? Ben non, bien sûr que non. J'avais mon père avec moi. Et c'est qui le plus fort, tu penses? Hein? C'est mon père. Et il y a un moment donné aussi, même je rappelle, ma mère est allée parler aux petits jeunes de sixième année et là, c'est eux qui ont eu peur. Non, mais pour vous dire, vraiment, c'est quand même particulier quand on sait qu'il y a quelqu'un de plus fort que nous, de plus grand que nous, et même pas nécessairement plus fort ou plus grand. Des fois, hein, des soirées qui nous rendent mal à l'aise, on va dire à notre ami, « Si tu viens avec moi, on y va, je vais avec toi. Hein? » Ou t'as pas envie de te baigner, je sais pas moi, pour aller dans la mer, tu dis « Ah, si tu y vas, je viens avec toi. » Hein, avouez, comme quand on est accompagné, on est plus courageux, on pourrait dire. Mais là, imaginez, Dieu est avec nous, le Dieu de l'univers nous accompagne. On a vraiment rien à craindre, littéralement rien à craindre. Et je voulais souligner, ça m'a tellement percuté, j'ai trouvé ça tellement magnifique, que les deux versets 5 et 2, on voit que Dieu dit « Je suis avec toi », qui est au présent, mais il dit aussi « Si tu traverses de l'eau, je serai avec toi ». Et qui avait levé sa main quand on parlait de la peur de la nouveauté, la peur de l'inconnu, hein? On a peur du lendemain, on a peur du lendemain. C'est vraiment une expérience qui est humaine, c'est pas pour rien que Jésus fait un enseignement tellement important sur ça dans Matthieu 6, 31-34. « Ne vous inquiétez donc pas et ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous. Avec quoi nous habillerons-nous? En effet, tout cela, ce sont les membres des autres peuples qui le recherchent. Or, votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Recherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu et tout cela vous sera donné en plus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain prendra soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. » Amen. car le lendemain prendra peine. Ne vous inquiétez pas du lendemain. Non, si tu traverses de l'eau, je serai avec toi. Quoi qu'il advienne, quoi qu'il arrive, il va être avec nous. Il est avec nous aujourd'hui, puis il va être avec nous demain. Il y a une chanson que j'aime beaucoup de Elevation Worship qui s'appelle Made a Way. Je l'ai traduit pour vous. Cette phrase-là, moi, qui me revient, que j'aime vraiment beaucoup, c'est chantée par Brendan Lake, puis il dit ceci: « Je ne craindrai pas le lendemain parce que tu y es déjà. » C'est en anglais, évidemment, mais « Je ne craindrai pas le lendemain parce que tu y es déjà. Mon espoir et mon futur sont déjà écrits. Parce que tu es Dieu, peu importe les chances, le résultat est toujours le même. Les mots sur les pages, la promesse que tu nous as faite, ont encore le dernier mot. » Le passage aussi nous montre que le futur est entre les mains de Dieu, comme je vous l'ai dit, et que le futur, non seulement il est entre ses mains, mais le futur, il est bon. Le futur, il est bon. Le futur, il est bon. Il peut être difficile, mais il est bon quand même. Et éventuellement, il sera juste bon parce que les difficultés vont être anéanties à tout jamais pour l'éternité. Ça fait aussi du bien de savoir que nos 80 années de vie, 100 ans, entre 80 et 100 ans de vie et de labeur, de difficultés, à un moment donné, ça va être achevé. Et pour l'éternité sans fin, on va pouvoir profiter des bienfaits de Dieu, de son amour, de sa présence, puis on va pouvoir être en vacances tous ensemble. Amen! Amen! Et c'est ce qu'il dit, en fait, le prophète Isaïe, au verset 5 et 7. « N'aie pas peur, car je suis moi-même avec toi. Je ramènerai ta descendance. » C'est là qu'on est dans les paroles d'espérance. « De l'Est, et je rassemblerai de l'Ouest. Je dirai au nord, donne, et au sud, ne retiens personne. Ramène mes fils des pays lointains et mes filles de l'extrémité de la terre. Tous ceux qui portent mon nom, que j'ai créé pour ma gloire, que j'ai façonné, que j'ai fait. » Ici, oui, bien sûr, ça parle du retour d'exil du peuple d'Israël, mais bien entendu que ça parle aussi de ce royaume que Dieu est en train de bâtir et qui un jour va rassembler tous ses enfants depuis toutes ces milliers d'années, de toutes les extrémités de la terre, de toutes les cultures différentes, et qui va établir une fois pour toutes son royaume de justice et d'amour. Nous n'avons pas à craindre l'avenir parce que l'avenir est beau. Amen. Finalement, on a lu donc deux raisons, pourquoi nous ne devrions pas avoir peur. Mais la suite du passage, ça nous montre un peu quoi faire à la place. Donc, qu'est-ce qu'on fait? C'est bien beau, OK, n'aie pas peur, mais qu'est-ce qu'on peut faire? Ça va vraiment dans le sens du renouvellement de l'intelligence, mais je voulais le voir à partir de ce passage-là. C'est la suite du passage au verset 10 à 12. OK, on le lit ensemble. Je termine bientôt. C'est vous qui êtes mes témoins, déclare l'Éternel, ainsi que mon serviteur, celui que j'ai choisi, afin que vous sachiez, croyiez et reconnaissiez qui je suis. Avant moi, jamais aucun Dieu n'a été formé, et après moi, jamais aucun autre n'existera. C'est moi seul qui suis l'Éternel, Yahweh, et il n'y a aucun sauveur en dehors de moi. C'est moi qui ai fait des révélations, qui ai sauvé, qui ai annoncé les événements. Ce n'est pas un de vos dieux étrangers. Vous êtes donc mes témoins en exil. Hein? Il était en exil. Vous êtes mes témoins à travers ces faux dieux étrangers. Déclare l'Éternel que c'est moi. Vous êtes donc mes témoins que c'est moi qui suis Dieu. Wow! Les musiciens peuvent s'approcher, mais voici un peu ce que je voulais vous partager par rapport à la suite de ce passage-là. Dans le cycle du renouvellement de l'intelligence dont je parlais tout à l'heure, on doit premièrement savoir, c'est ça mon dernier point, donc n'aie pas peur, mais sache, crois et reconnais. On doit savoir, croire et reconnaître. Savoir, OK, c'est connaître les vérités de Dieu, comme je viens de vous en décrire plusieurs. C'est savoir qui il est dans sa parole, comment il se révèle. Et tout le monde, quand on y pense bien, tout le monde, en fait, a accès à ça. Tout le monde peut ouvrir la Bible et lire, avoir de la connaissance sur Dieu. Il y a même des gens qui étudient, qui font de la théologie, mais qui ne sont pas chrétiens. C'est ce qui distingue le chrétien du non-croyant, c'est qu'il croit ces vérités-là. Mais des fois, peut-être dans notre marche chrétienne, on croit de moins en moins, hein, en tout cas, on s'empare de moins en moins des vérités que oui, on connaît, mais on les vit moins, on les actualise moins pour nous. Ils sont moins comme un ancrage, ils sont moins comme une révélation fraîche, comme une conviction. Donc, on est appelé à non seulement savoir, mais à croire. Et dans le renouvellement de l'intelligence, tu dois passer de la connaissance cérébrale à la croyance dans ton cœur. Passer de la connaissance cérébrale, il y a plein de C là-dedans, là. Écoutez, c'est un beau travail de prédicatrice, ça, là. La connaissance cérébrale à la croyance dans ton cœur. Et dans le cas de la peur, en fait, tu dois savoir que Dieu t'a racheté, comme on l'a vu, il t'a racheté, qu'il est avec toi, mais tu dois aussi le croire dans ton cœur. Puis ça se fait par son esprit, c'est de la misère à le croire. Les disciples ont dit, augmente notre foi. Okay? On peut le prier. Crois que Dieu t'aime, qu'il t'a racheté, qu'il est avec toi. Crois qu'avant lui, jamais aucun Dieu n'a été formé et après lui, jamais aucun Dieu n'existera. Crois qu'il est le seul sauveur. Crois que Dieu est Dieu. Et en portant ton focus, en fait, sur Dieu, sur qui il est, sur ces vérités-là, c'est ça le renouvellement de l'intelligence. Sur ce qui est fait pour toi, ben, ça te permet de te défocaliser de tes peurs, bien entendu. Et je voulais voir, dans le fond, j'ai pris un peu toutes les vérités magnifiques sur Dieu et sur nous, en quelque sorte, qui étaient dans ce passage-là, et je veux vous les lire. J'ai fait comme une liste de tout ce qu'on lit sur Dieu, sur comment il est magnifique et sur sa relation avec nous. Juste dans ce court passage, imaginez à travers toute la Bible qu'est-ce qu'on peut trouver sur la beauté de Dieu. On lit dans tout ça, dans tout ce passage, qu'il t'a créé pour sa gloire. Il t'a fait, il t'a façonné comme tu es, il t'a racheté, il t'appelle par ton nom. Est-ce qu'il y a quelque chose de plus touchant et flatteur de se faire appeler par son nom, par quelqu'un qui nous connaît? Imagine Céline Dion pour les plus âgés, Taylor Swift pour les plus jeunes. Imaginez si tu vas à son concert, puis « Ah, Élise! Ah, Tina! Ça va? » Imaginez! Ah, à quel point tu te sens fière, là, tu sais, tout le monde voit que tu connais Céline ou Taylor Swift. Le Dieu de l'univers nous connaît parfaitement, bien mieux que nous. Il connaît même nos failles, nos bons côtés, nos mauvais côtés. Il nous appelle par notre nom. Wow, quel grand Dieu, incroyable, magnifique. Tu lui appartiens. Dieu est avec toi. Il est ton Dieu, ton sauveur. Il a donné son Fils en rançon pour toi. Tu as de la valeur à ses yeux, quoi que tu puisses penser sur toi-même. Tu as de l'importance, c'est important ce que tu vis. Dieu, tu trouves que c'est important ce que tu es en train de vivre, même si ça peut paraître insignifiant. Dieu t'aime, tu es son témoin. Il n'y a jamais eu aucun Dieu avant lui, il n'y en aura jamais après lui. Il est éternel, il n'y a aucun sauveur en dehors de lui et il se révèle à nous. Ce matin et à tous les jours. Amen. Et ce qui est extraordinaire, c'est ça, le dernier volet un peu de ce point-là, c'est que ce renouvellement de l'intelligence ne nous sert pas à nous, en fait, seulement à nous, à nous transformer, mais il devient un témoignage pour les autres autour de nous. Vous êtes mes témoins que je suis Dieu et qu'on n'a rien à craindre. C'est vous qui êtes mes témoins, déclare l'Éternel, ainsi que mon serviteur, celui que j'ai choisi, afin que vous sachiez, croyez et reconnaissez qui je suis. Quand on croit, quand on sait, quand on croit, on devient des témoins de qui est Dieu et on témoigne de qui il est à tout notre entourage. Et le calme que nous avons dans nos tempêtes devient un témoignage profond. La sérénité peut-être face à la mort si on est en fin de vie, la paix, le calme devant un changement, hein? L'adversité, mais ça devient un témoignage qui est extérieur. N'aie pas peur car je t'ai racheté. N'aie pas peur car je suis et je serai avec toi. N'aie pas peur, sache, crois et reconnais. Un renouvellement de l'intelligence à l'intérieur de nous qui nous transforme et qui devient un témoignage autour de nous. J'aimerais prier pour vous. Si vous voulez bien, on va juste se lever ensemble puis on va chanter par la suite l'amour de Dieu. Vraiment, on va l'élever. Prenons ce temps pour prier. J'aimerais qu'on puisse déposer nos craintes, nos peurs au pied de la croix. Et vraiment que Dieu fasse son œuvre miraculeuse par son esprit qui nous libère de la peur, qui nous libère de l'anxiété, du stress. Qu'on puisse être à la place inondé par son amour et qu'on puisse être rempli de confiance. Prions, prions ensemble. On peut fermer les yeux pour ceux qui veulent. Seigneur Jésus, merci de nous aimer tant, Seigneur. Pardonne-nous parce qu'on minimise tellement souvent ton amour et ta grâce envers nous. Seigneur, merci pour ta puissance, merci pour ton esprit qui travaille en nous en ce moment. Je te prie de parler au cœur de chacun. Tu sais chacun de quoi nous avons besoin, Seigneur. Nous sommes tes brebis, tu prends soin de chaque brebis comme un bon berger. Tu es un bon papa, Seigneur. Vraiment, je te prie de venir guérir peut-être l'expérience de mauvais parents qui ont pu briser des cœurs, Seigneur. Je te prie de venir restaurer ça et que tu puisses vraiment démontrer ton amour dès maintenant dans le cœur de chacun d'entre nous. Renouvelle nos pensées, Seigneur. Nous venons à toi en déposant nos craintes, nos peurs. Et nous savons, nous voulons être remplis de confiance, Seigneur, parce que nous savons qu'avec toi, nous n'avons rien à craindre. Nous n'avons pas à craindre le lendemain, nous n'avons rien à craindre, nous n'avons même pas à craindre la mort. Alors, qu'est-ce qui pourrait nous faire peur, Seigneur? Viens nous vivifier, nous rendre convaincus de ces vérités, Seigneur. Et ça, c'est juste le travail de ton esprit, Seigneur. Alors, j'implore l'Esprit Saint qu'il fasse son œuvre dès maintenant et dans ces prochains chants qu'on va chanter, Seigneur, qu'on puisse s'emparer de ces vérités, le vivre à fond, Seigneur, et viens te révéler à nous par ton esprit, par l'action de ton esprit, alors que nous t'élevons, alors que nous changeons notre focus sur nos peurs, nos craintes, nos péchés, quoi que ce soit, Seigneur, mais qu'on met le focus sur toi, qu'on pense à ton amour, à ta grâce, à tout ce que tu es, à qui tu es, Seigneur. Viens par ton feu, Seigneur, par ton esprit, vivifier nos cœurs et notre esprit. C'est dans ton nom, Jésus, que nous avons prié. Chantons ensemble l'amour de Dieu.